Bienvenue dans Rythme, le podcast qui donne le tempo à ton entreprise. Je suis Alexandre du cabinet de recrutement de Wheel of Devs et dans chaque épisode, j'invite un ou une expert RH. On va débattre des dernières tendances, mais surtout, on est là pour te filer des conseils en or et faire de toi un véritable stratège pour t'aider à piloter ta boîte avec efficacité. Cette émission est diffusée en direct sur LinkedIn et tu peux aussi la retrouver en podcast. Alors n'hésite pas à nous suivre pour être au courant des prochains épisodes. Et maintenant, installe-toi confortablement. Enfile ton casque, monte le son et rendez-vous au premier virage. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce deuxième épisode de Rythme, le podcast qui donne du tempo à ton entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nico Passetti, le barbu des RH et spécialiste de la data dans les ressources humaines. Un vaste sujet qui a un peu le vent en poupe en ce moment et on va pouvoir un petit peu refaire le tour de cette démarche. Donc la data, l'IA, ça va être les deux sujets principaux du jour. Nico, comment tu vas ?
Mais écoute, ça va pas mal. Je suis un peu malade, mais ça va. Ah. Je sors d'une semaine de vacances au ski, donc tout va bien. Bon, c'était cool. On était au top.
T'as pu te ressourcer ? Tu t'es rien cassé ?
Non, ça va. Je tiens encore sur le ski, c'est bien.
Ah, donc, parfait.
Tout va bien.
Impeccable. T'as eu de la neige ?
Bah, grave.
Trop bien.
J'étais dans les Alpes et il y a plein de neige. Non, c'était cool.
Super.
C'était vraiment très, très cool.
Content que tu sois là en un seul morceau et avec plein de bon air dans les poumons, il en faut pour gérer ces sujets-là que tu as au quotidien dans ton travail. Et du coup, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en détail ?
Alors, moi je suis Nico, j'ai monté une agence de communication RH sur Bordeaux il y a de ça maintenant 12 ans, qui s'appelle eTeam. J'ai travaillé auparavant au Figaro, enfin j'ai eu un long background, ça fait plus de 16 ans maintenant que je travaille dans le monde des ressources humaines, dans les médias et dans l'accompagnement des entreprises, dans tout ce qui est méthode de recrutement, nouvelle méthode de recrutement, marketing RH depuis pas mal de temps, marque employeur. Et depuis un an et demi, j'ai pris le pilotage, la direction d'une entreprise qui s'appelle Hawk, qui développe un outil de développement des compétences, de gestion des compétences et des collaborateurs, et de strategic workforce planning, simplifié par l'intelligence artificielle. C'est un outil qui a été monté par une boîte bordelaise spécialisée en IA, qui avait besoin après d'appétence RH pour pouvoir le développer et le mettre sur le marché. Et c'est là où je suis intervenu et c'est là où, depuis un an et demi, en fait, je pilote la boîte. Donc, une nouvelle aventure hyper intéressante et hyper stimulante parce que, comme tu l'as dit, l'IA, la data dans les RH aujourd'hui, ça parle à tout le monde, c'est en vogue. Nous, ça commence à faire un petit moment et l'outil, ça fait bien plus longtemps que ça qu'il a été construit. Donc, c'est vraiment une belle aventure.
Ok, super, c'est hyper clair, un beau parcours et puis là, un nouveau projet qui a le vent en poupe et un vaste sujet à élaguer, ce qu'on va commencer aujourd'hui. Avant de démarrer dans le vif du sujet du fameux Strategic Workforce Planning, qui est un gros mot, un bel anglicisme, on va se faire un petit peu taper sur les doigts à mon avis là-dessus, je voudrais te poser trois petites questions rituelles.
Tu t'appelles Wheel of Dev.
Ouais, c'est vrai, t'as pas tort.
On peut rien faire là sur les anglicismes, c'est gagné.
Tu sais qu'à l'époque, on s'appelait Je cherche un dev et ça faisait beaucoup rire tout le monde. Mais c'est vrai que quand on veut voir de nouveaux horizons internationaux, on est obligé d'y réfléchir à deux fois finalement.
Ouais, et puis ça marche bien, hein. Franchement, ça marche bien. Je trouve que le nom, il claque, il pète, il est bien, il est très très bien.
Super. Bah écoute, content que ça te plaise et puis c'est très parlant. Et puis c'est vrai qu'on adore les devs, donc ça tombe bien finalement, c'est dans le bon flow. Du coup, les trois petites questions rituelles. La première, c'est quoi ton plat préféré ?
Mon plat préféré, c'est un plat. Alors, j'y ai même pas réfléchi, hein, tu vois, tu m'as dit, mais là, comme ça, de facto, je dirais un plat qui s'appelle le Vitel Tuna. Je sais pas si tu connais, si ça te parle.
Pas du tout.
Bah, c'est un plat italien, c'était fait par ma grand-mère et ma mère aussi d'ailleurs. C'est du veau au thon. Ça peut paraître bizarre, mais c'est ultra bon. C'est vraiment un plat du nord de l'Italie qui est vraiment hyper, hyper bon.
Je demanderai à Marie si ça lui parle. Elle mange aussi beaucoup italien puisqu'elle est d'origine italienne. On en parlera ce midi.
Ça doit lui parler alors.
Super.
Ça doit lui parler.
La deuxième question, c'est quoi ta Madeleine de Proust musicale ?
Madeleine de Proust. Alors, pas de mes 5 ans ou de mes 4 ans, hein, mais depuis très longtemps, Madeleine de Proust musicale pour moi, c'est une musique qui s'appelle I Got the Blues. Qui vient d'un groupe qui s'appelle Leiby Cipher, d'une personne qui s'appelle Leiby Cipher. C'est assez peu connu, c'est années 70. le son est très connu parce que ça a été repris par Eminem pour son fameux My Name Is, ouais. Le Redeem derrière. Mais ouais, c'est un très, très, très gros son soul que j'adore.
Bon, et ben on vous partagera à tous le lien de cette musique dans les commentaires pour que vous puissiez en profiter un maximum. Et enfin, la dernière question qui va faire le lien avec le reste, à mon avis, c'est quoi ton dernier eureka dans ta vie professionnelle ?
Bah c'est ça, c'est Hawk. Hein. Clairement, on peut pas aller plus loin que ça. Hein. J'ai découvert un outil. Bah après, je vais te laisser poser les questions, mais j'ai rencontré les gens qui ont monté cet outil il y a maintenant 2 ans. J'ai découvert le truc. J'ai fait ah ouais quand même. Enfin, c'est trop cool quoi.
C'est ouf.
C'est ouf. Enfin, c'est vraiment génial quoi. C'est ce qu'il faut pour avancer. C'est ce qu'il faut pour accompagner les boîtes aujourd'hui. Donc j'ai trouvé ça topissime, clairement.
Bah très bien. Et comme tout je le disais tout à l'heure, c'est un gros mot, strategic workflow planning. Et bah ma première question, ça va être Kezako.
Le strategic workforce planning.
Ouais.
Le strategic workforce planning, en fait, c'est le fait d'être en mesure d'accompagner ton entreprise et tes collaborateurs pour faire en sorte que leur développement contribue au développement du business de ta boîte. Au départ, ça va être ça en fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire. Je réfléchis à comment je dois développer ma boîte d'un point de vue business pur, c'est-à-dire que où est-ce que je veux l'emmener. Aujourd'hui, tu es chez Wheel of Dev, ton objectif c'est de faire plus de temps de CA, c'est d'avoir plus de temps de dev sur ta plateforme, c'est d'avoir plus de temps de clients, c'est d'évoluer en termes de graphisme, en termes de contenu, en termes de choses comme ça,
yes.
Pour pouvoir justement développer le business. Donc je vais voir en fait qu'est-ce que j'ai besoin pour amener ma boîte d'un point A à un point B, d'un point de vue stratégique, business stratégique. Et forcément, ce business stratégique, il doit t'amener à une nécessité de compétences pour pouvoir justement réussir à le développer et réussir à faire en sorte que, bah, du coup, ce point B, en fait, soit vraiment actif et soit vraiment réel. Et du coup, pour qu'il soit réel, ce point B, il faut que tu aies justement ces compétences. Et l'idée du strategic workforce planning, c'est de dire, OK, je sais où je veux aller. Mm-hmm. Donc, du coup, je vais faire l'état des lieux de là où j'en suis aujourd'hui. Je vais évoquer mon point A, je vais regarder quelles sont mes compétences, quelles sont les personnes qui bossent sur quel job, ainsi de suite, et je vais voir comment je peux aller du point A au point B en développant les collaborateurs qui sont au sein de mon entreprise au maximum pour pouvoir les amener en fait à devenir les personnes qui vont pouvoir contribuer à développer l'entreprise d'un point de vue business stratégique. Donc c'est vraiment faire en sorte de développer l'entreprise, de développer les collaborateurs en développant l'entreprise ou de développer l'entreprise en développant les collaborateurs. Donc de voir un petit peu quels sont tous les chemins à parcourir d'un point de vue développement des compétences ou développement structurel de TRH pour pouvoir justement répondre à ton besoin. Et donc n'oubliez personne en route et de savoir exactement ce que tu peux toi-même développer en interne, ce que tu dois recruter et quelles sont tes pains et quelle est ta stratégie globale de développement RH.
Ok, bah écoute, on va aborder tous ces sujets.
Vas-y.
En gros, l'idée c'est de relier les RH au business, vraiment de faire de la dimension RH un réacteur pour atteindre tes objectifs plutôt business, mais avec une réflexion sur le long terme. C'est un peu ça ou j'ai mal compris?
De toute façon, les RH sont censés accompagner ton business.
Très clairement.
C'est la base.
Ouais.
J'aurais dû te partager un truc. J'avais dans une newsletter de Caroline Mignot, je sais pas si tu connais.
Ouais.
Dans une newsletter de Caroline Mignot, elle nous avait sorti en fait un super graphique qui montrait en fait tout l'intérêt de la rétention des collaborateurs pour le développement d'une structure. J'aurais dû te l'emmener ou je te l'enverrai comme ça tu pourras l'envoyer
aux personnes
qui sont en train de suivre le live, hein.
On peut en parler du coup.
Ouais, bien sûr. Mais en gros, l'idée, c'est de se dire, la personne, quand elle arrive, alors attends, je vais essayer de je vais te le retrouver comme ça, tu vois. L'idée, c'est de dire, la personne, quand elle arrive dans la boîte, en gros, elle a un faible intérêt d'un point de vue business, tu vois. Donc, c'est purement un investissement, en fait, la personne, quand elle arrive dans la boîte. Ensuite, plus elle va arriver dans la boîte, tu vas commencer à l'onboarder, elle va prendre en main son poste, ainsi de suite. Cet investissement va commencer à devenir petit à petit de plus en plus rentable. Tu vois, ça va être ça l'intérêt. Et en gros, plus la personne va contribuer à rester dans la boîte, va développer ses compétences, plus elle va développer une certaine expertise. Ensuite, elle va commencer à développer un certain leadership. Et ensuite, une fois qu'elle aura développé tout un tas de compétences et qu'elle sera restée dans ta structure, elle va même pouvoir développer ce qu'on appelle ton innovation. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir être force de proposition et contribuer à la boîte dans son développement en tant que tel et dans ses innovations. Et donc, à ce moment-là, tu seras plus sur un investissement, mais tu seras sur un pur ROI, tu vois. tu seras sur un pur retour sur investissement. Donc plus ton RH en fait va se sentir bien dans la boîte, va réussir à se développer, va monter, plus il va être intéressant et plus il va avoir un retour sur investissement fort. Le seul problème, c'est que ces données-là, en fait, ce sont des données qui ne transparaissent pas en fait dans un bilan d'entreprise. Donc c'est-à-dire que pour pouvoir réellement les mettre en place et avoir envie de les mettre en place, il faut qu'on ait aujourd'hui des chefs d'entreprise qui soient conscients de toutes ces phases-là, parce que encore une fois, ce sont des métriques qui sont des métriques cachées. C'est-à-dire que le retour sur investissement d'un collaborateur, c'est ce que tu imagines quand tu vois et quand tu prends du recul et de la hauteur sur toute ta structure. Mais encore une fois, tu l'auras jamais au bilan de ton entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Donc quand tu parlais tout à l'heure du business, oui, effectivement, les RH, dans tous les cas, de toute façon, sont là pour développer le business de ta boîte. Quel qu'il soit, ils sont là pour développer le business de ta boîte. C'est la force vive. On en parle tout le temps. C'est les gens qui pensent que leur boîte, que leur marque, que leur produit... c'est ça, en fait, qui fait la différence. Allez, 95% ont tort.
Mais ce qui est formidable, c'est que ce que tu dis est tout à fait vrai, mais ce point de vue-là, il n'est pas forcément défendu par tout le monde. En tout cas, il n'est pas mis en application par tout le monde. Il y a plein de boîtes qui fonctionnent avec un service RH qui est un peu décorrélé du business, et effectivement, ça ne fonctionne pas. Est-ce que, justement, la solution d'apporter un peu cette data et d'apporter de la valeur à des données, des métriques, ça peut permettre de pousser un peu les patrons, les chefs d'entreprise, à repenser leur RH de manière à la faire rentrer dans ce réacteur business. Comment tu proposes la chose, toi ?
Ça, c'est pas c'est pas ta data et tes métriques qui vont pousser le CEO à comprendre. C'est soit il comprend, il se dit OK, j'y vais, parce que justement, c'est un CEO moderne, on n'est plus sur le c'était mieux avant et compagnie, machin, hein, tout va bien. D'ailleurs, c'est un ou une CEO, hein. On arrête le mâle blanc de 50 ans qui est chef d'entreprise. C'est plus de notre époque. Du coup, c'est une personne, en fait, qui va être chef d'entreprise, qui va être dynamique, qui va comprendre la donnée, mais c'est pas la data qui va lui permettre de comprendre.
Ouais, okay.
Pourquoi? Parce que la data RH, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un outil caché. Clairement, c'est un coût ou un retour sur investissement caché que tu ne verras pas. Tu pourras pas le percevoir. Clairement, tu peux pas le percevoir. De la même manière que tiens, merci Fanny d'avoir ressorti le graphique, c'est cool. De la même manière, en fait, que tu vas avoir aujourd'hui, par exemple, on commence à savoir, parce qu'on en parle énormément, que le coût d'un recrutement raté, c'est en moyenne 50 000 euros. Mais au final, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que tu ne le sais pas. Tu peux pas, en fait. Tu le sais quand tu évalues l'ensemble des coûts, mais ça n'arrive encore une fois pas dans une ligne du bilan de l'entreprise. Donc, soit tu as un chef d'entreprise, une chef d'entreprise, une personne qui dirige une entreprise qui est au fait de ces sujets-là, qui est au fait de toutes ces projections, de toutes ces études, et qui va se dire « Ok, je vais me servir du coup de la data pour améliorer l'ensemble de mes métriques, parce que je sais que l'amélioration de ces métriques va me faire gagner de l'argent et va faire progresser mon entreprise en termes de développement, en termes de compétences, en termes de productivité, en termes de fidélisation client, dans tous ces côtés-là. »
Carrément.
Soit tu as un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise qui n'a pas ces données-là et la data ne permettra pas de le faire comprendre.
Ok.
Donc il faut que tu aies quand même une proactivité de la personne qui gère la boîte.
Ah bah il faut être deux, ouais, pour piloter, c'est sûr, à ce moment-là, dans la mise en place de cet outil-là. Et c'est quoi les étapes clés à respecter dans la mise en place de la démarche que tu proposes aujourd'hui? Et puis justement, pour aller un peu plus loin, expliquer qu'est-ce que ça a comme valeur ajoutée?
Alors, si tu parles juste du strategic workforce planning, en fait, ça s'intègre dans une démarche plus globale qui est la démarche de la GE2P que beaucoup de RH doivent connaître aujourd'hui. Hein. C'est vraiment le côté considération de l'ensemble du collaborateur et de son développement à l'intérieur de l'entreprise. Ce graphique-là, en fait, te montre tout ça, te montre tout l'intérêt de la GE2P qui va contribuer, en fait, à faire en sorte que le collaborateur ou la collaboratrice va rester dans l'entreprise, va se développer, va avancer et va encore plus servir à la boîte. Si tu parles purement du strategic workforce planning, mais même, j'ai envie de te dire un petit peu de tout ça, il y a deux étapes clés à franchir dès le départ. C'est déjà de savoir d'où on part. Donc, pour savoir d'où on part, il faut connaître sa base, il faut savoir, quelle est notre idée aujourd'hui de la structure de ce qu'on veut. Ça veut dire créer un référentiel métier, ça veut dire créer des golden profiles, faire en sorte de, alors c'est un anglicisme, mais je pense que tout le monde aura compris, donc créer vraiment le profil idéal, le profil type, en fait, de la personne qu'on veut aujourd'hui à tel ou tel poste. Si on veut un dev, quel est son profil type? Parce qu'il y a il y a plein, enfin, dev, ça veut tout dire, ça veut tout et rien dire, quoi, tu vois. Tu peux demander beaucoup de choses à un dev, tu peux avoir beaucoup de manières de fonctionner dans des boîtes différentes, tu peux avoir beaucoup de manières de fonctionner en fonction des clients que tu vas avoir, une certaine. Il y a plein de choses qui sont différentes, plein de compétences différentes que tu peux demander à un dev. Donc, du coup, en gros, connaître ton golden profile, ça, c'est quelque chose d'important pour savoir comment, après, tu vas mapper les compétences de chaque collaborateur pour savoir comment il se situe à l'intérieur de ça.
Ouais.
Donc, ça, c'est d'un point de vue purement, on va dire, factuel et technique. Et ça, c'est ce que nous, un outil, tu vois, comme O qu'on développe, va apporter et va accompagner, en fait, à toute cette partie-là. Et ça, ça t'amène au strategic workforce planning. Pourquoi ? Parce que quand tu sais d'où tu pars, après, il suffit d'imaginer où tu veux aller. Et après, tu as des outils comme O, justement, que tu mets au milieu, qui te proposent plein de chemins différents pour pouvoir aller du point A au point B. Et si tu sais pas d'où tu pars, ça sert à rien de savoir où tu veux aller. Parce que de toute façon, tu vas te mettre un objectif en tête qui sera hyper lointain, qui sera probablement très intéressant et très, comment dire, et très pertinent, hein, qui sera très ambitieux.
Très ambitieux.
Mais comme tu sais pas d'où tu pars, tu pourras pas faire.
Okay.
Ça, c'est sur le côté technique du strategic workforce planning. Après, si tu parles plus globalement du RH et de la GE2P, clairement, la première des choses à faire, c'est pareil, c'est un état des lieux. Moi, je conseille à tout le monde, de faire un audit à travers ce qu'on appelle une experience map. Ça, c'est plus un aspect qu'un aspect, pas QVT, mais vraiment entre la QVT, la RSE, l'expérience collaborateur. Faire ce qu'on appelle une expérience map, c'est-à-dire de poser énormément de questions. Donc, tu vois, tu te fais une trame, tu poses énormément de questions à tes collaborateurs sur tout ce qu'ils vivent chez toi, que ça soit dans leur job, que ça soit dans leur quotidien, que ça soit dans leur vie, que ça soit dans leur environnement de travail, et ainsi de suite. Donc, tu leur proposes, en fait, de faire cette expérience map-là et ils vont te dire, en fait, tout ce qui se passe bien et de mal. Et du coup, toi, ça te permet d'avoir un état des lieux global d'un point de vue technique avec ton côté référentiel métier et mapping de compétences et d'un point de vue, on va dire, plus opérationnel de ta boîte. Et une fois que tu as ça, bah, à partir de ce moment-là, c'est à toi de mettre en place ce que tu veux mettre en place et l'entreprise que tu veux mettre en place. Parce qu'après, en fait, c'est beau de dire il faut faire ci, ça, il faut faire ça. Au final, on s'en fout. Chaque boîte fait ce qu'elle veut. Chaque boîte propose en fait ce qu'elle veut à ses collaborateurs par rapport à son ADN. Et il faut pas qu'une boîte te dise ah bah tiens, l'autre boîte à côté, elle a fait ça, il faut absolument que je le fasse. Non, il faut que tu fasses ce qui correspond à ton ADN. Mais pour pouvoir faire ce qui correspond à ton ADN et savoir comment tu veux y arriver, il faut savoir encore une fois d'où tu pars. Donc à ce moment-là, il faut vraiment poser la question à tes collabs et faire cette expérience map-là. Mais à tous les niveaux.
Ouais, et justement, en fait, par rapport à ça, quand toi t'interviens sur chez un client, une entreprise qui a pas du tout cette façon de penser là, comment tu mets en place, combien de temps ça prend, et concrètement, c'est quoi les KPI que tu vas rechercher en priorité et la data que tu vas mettre en surbrillance?
Tu parles sur la partie Hawk, sur la partie Hawk, en fait, déjà de toute façon, en fait, tu peux pas rentrer. Alors, nous, on peut rentrer s'il n'y a pas la technique, parce qu'on peut accompagner totalement l'entreprise à créer son référentiel métier.
Ouais.
Le mapping de compétences, c'est l'outil qui va le faire. Donc là, à ce moment-là, c'est clairement ça. Mais tu n'as aucun intérêt à rentrer dans une entreprise qui n'a pas posé de volonté de travailler justement sa GE2P, donc une volonté profonde d'utiliser ses collaborateurs dans un aspect de développement de l'entreprise, de co-développement de l'entreprise, en fait. C'est-à-dire que si tu te dis « Ok, ça va résoudre tous mes problèmes », parce que j'arrive et puis je vais pouvoir mettre de la data à l'intérieur et puis ça va me donner les bonnes personnes qui vont sortir aux bons endroits. Oui, c'est vrai. En soi, c'est vrai. Ça peut te donner les bonnes personnes qui vont sortir aux bons endroits. Ça peut te dire, tiens, Jean-Michel, il a besoin de se développer sur tel truc. Naïma, elle a besoin de se développer sur tel truc pour devenir performante, ainsi de suite. Très bien. Mais une fois qu'on t'a dit ça, comment tu fais pour le mettre en place?
C'est ça,
si jamais tes collaborateurs sont pas engagés, si jamais t'as pas de politique de formation qui est avérée, si jamais ils croient pas en l'entreprise, si jamais ils croient pas en ton ADN, les gens ils vont pas se développer, ça n'a aucun intérêt. Donc si tu n'as pas un environnement RH qui est déjà de lui-même dynamique et qui est entre guillemets sain, ben ça sert à rien de le mettre en place, parce que ça sera que des outils qui vont galvauder en fait ton idée ou ce que tu veux en faire, parce que les gens vont se dire ok, ben c'est bien, il met en place un outil, mais au final il a pas fait le minimum, donc ça sert strictement à rien. Donc il faut qu'il y ait ça qui soit là.
Ouais.
Après tout le reste on s'en occupe.
Okay.
Et nous ce qu'on va surtout mettre en avant, c'est principalement les compétences des collaborateurs.
Ouais.
Quand on dit les compétences des collaborateurs, c'est c'est vraiment le développement global que peuvent avoir les collaborateurs. C'est-à-dire qu'en gros, on va pas prendre que les compétences linéaires, tu vois. C'est-à-dire que c'est bien de prendre des compétences linéaires, tu vois. T'as un dev qui est là, qui fait son job et tout, c'est cool. Mais ça se trouve, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans dans sa boîte, surtout à notre période, mais il en a marre de faire dev. Tu vois, ça le saoule profondément. Mais vraiment, ça le saoule profondément. Par contre, il a développé plein d'autres compétences dans des expériences extra-professionnelles, dans des projets transverses ou dans une ancienne vie. Et potentiellement, il peut faire d'autres trucs qui peuvent être hyper cool pour ta boîte. Il peut devenir sales, il peut devenir graphiste, il peut devenir marketeur, il peut devenir comptable. Enfin, j'en sais rien, n'importe quoi, tu vois, en fonction de ce qu'il a fait. Et ça, c'est ce que nous, on va mettre en surveillance. C'est-à-dire qu'on va mettre l'ensemble des compétences des collaborateurs. Pourquoi ? Parce que justement, l'objectif, c'est de dire, OK, t'aimes ton job, ta boîte, elle a besoin que tu te développes de manière linéaire ici.
Oui.
Donc, on va t'expliquer quel est le chemin à suivre pour que tu sois encore meilleur dans ton job ou que tu te développes en fonction de ce que tu veux, mais d'un point de vue linéaire.
Okay.
Tu aimes ta boîte, tu aimes moins ton job, mais on peut quand même te proposer quelque chose parce que ta boîte, elle a des jobs qui peuvent te correspondre. Alors, ça ne veut pas dire que ta boîte, elle a tout. Tu vois, tu vas bosser dans une boîte de la tech ou en IA, le mec ou la nana, elle a envie de devenir boulangère. Bon, bah écoute, c'est bien. Enfin, tu vois, tu changes de job, fais une reconversion. Mais si tu préfères, aujourd'hui, on voit énormément de personnes qui font des reconversions pour aller dans d'autres boîtes parce que leur entreprise n'a pas su déceler ce qu'eux voulaient faire. Et eux-mêmes n'ont pas su dire, en fait, ce qu'ils voulaient faire à leur boîte parce qu'ils ne savaient pas que ces jobs-là étaient en avant. Donc, tout notre travail, en fait, ça va être de mettre en surveillance ces jobs-là, ces compétences, et de montrer le champ des possibles, non seulement pour la boîte, mais pour les collaborateurs. Donc, le champ des possibles dans l'entreprise.
Et tu peux me rappeler combien de fois on change de métier en moyenne en France? Je crois qu'on fait plusieurs métiers, 4 ou 5. En fait, on change plusieurs fois d'orientation.
Bah, ça dépend de qui tu parles. Si tu parles de nos parents, ils ne changent pas. Donc, tes parents, ils sont plus jeunes que les miens. Mais moi, mes parents, ils ont peut-être pas changé de job ou une fois dans leur vie, tu vois. Nous, aujourd'hui, on est en moyenne à 4 ou 5 jobs en moyenne dans une vie aujourd'hui et les générations qui vont nous suivre. Je ne suis pas forcément persuadé qu'elles vont changer plus de boîtes. Mais c'est possible qu'elles changent plus de mission à l'intérieur de leur job.
Ouais, c'est ça.
Tu vois, ça va être encore des choses qui vont être différentes.
C'est ça le vrai enjeu, en fait, parce qu'on a le sentiment que les générations qui sont là et qui, celles qui arrivent, elles ont besoin d'être motivées par des nouvelles choses, des nouveautés tout le temps. C'est un peu ce côté, la consommation immédiate, les réseaux sociaux, etc. Ça a besoin de toujours avoir ce côté évoluer, monter en compétences, avoir des nouvelles choses, des missions transverses.
Ouais.
On nous demande régulièrement, quand t'es recruteur, une des questions clés que les candidats ils vont poser, c'est quoi les missions transverses que je vais avoir? Parce que c'est bien beau d'avoir les missions de base clé que je vais devoir faire au quotidien, mais moi il me faut du grain à moudre à côté pour pouvoir m'épanouir, quoi. Et ça en fait, finalement, toi, ton intervention avec Oak, ça va être de pouvoir mettre en avant ces missions transverses là et faire monter en compétences en fonction des affinités des gens et potentiellement les faire changer de poste en interne et les conserver dans la boîte pour en faire des référents à long terme, quoi.
Ou les sursolliciter pour des missions transverses.
Ouais.
Tu vois, ça peut être aussi également ça, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, tu as ces missions transverses qui existent, tu vas pouvoir trouver les bonnes personnes, les personnes idoines, tu vois, pour répondre à ces questions.
Okay.
Parce que justement, tu vas avoir ces compétences pour ces missions transverses-là, tu vois. Ça, c'est ça qui est ultra important. Donc ça, tu vas pouvoir les avoir tout de suite. Donc ça, pour le coup, c'est ce que l'outil va proposer. Et là où tu as raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur un développement global et régulier des missions, parce que les gens veulent de plus en plus être stimulé. Donc c'est ça, c'est une chose. On n'est pas forcément dans le côté immédiateté, tu vois, le besoin d'immédiat d'avoir que tu peux ressentir quand tu vois les réseaux sociaux, le besoin de tout avoir tout de suite et tout. C'est pas forcément ça.
Okay.
C'est vraiment plutôt le besoin d'être stimulé parce que on a envie de faire des choses qui nous plaisent. On n'a pas envie de se faire chier dans notre job. On le sait. Et aujourd'hui, c'est possible parce que justement, on a un potentiel de job différent, un potentiel de travail, en fait, qui peut justement nous stimuler. Donc, les gens veulent pas, en fait, passer à côté. Ils veulent constamment être stimulés.
Ouais.
Mais au-delà du fait d'être stimulé, il y a aussi le côté vouloir toujours être à la pointe de son job en soi. Dans le monde du dev, la dernière étude de l'OCDE montre, c'était en parlant avec une amie qui me montrait cette étude de l'OCDE qui disait qu'aujourd'hui, on était à moins de 18 mois pour une obsolescence de compétences dans la tech.
Hyper vite. Ouais.
Donc, du coup, ça veut dire qu'ils ont toujours besoin d'être à la pointe et c'est ça aussi qui va faire leur stimulation. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément besoin de leur proposer des projets transverses. Tu peux leur proposer des projets transverses pour ceux qui le souhaitent, des missions annexes ou des choses comme ça, mais tu peux aussi tout simplement faire en sorte de leur proposer une évolution constante tu vois, de leur métier sur leur pain point ou sur les points qui les intéressent le plus. Tu vois, il y a ça aussi. C'est-à-dire que voilà, tu auras pas des devs qui vont être forcément bons partout. Tu auras pas des devs qui auront le golden profile parfait partout. Tu auras des devs qui auront des compétences un petit peu meilleures dans d'un côté, un petit peu meilleures sur un autre. Et en fonction de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils ont envie, tu vois, leur porter justement cette possibilité de pouvoir se développer constamment sur les sujets qui leur plaisent. Ça, pour le coup, c'est cool. Et après, toi, ça te permet par contre d'avoir une équipe globale. Ouais. Qui est ton équipe golden, quoi, tu vois, qui a justement toutes les compétences maîtrisées. Okay. Et ça, c'est ce que tu peux voir avec des outils comme ça, quand tu mets justement en avant les compétences, sans forcément mettre en avant les personnes, mais si tu préfères, c'est l'intérêt aussi, c'est que tu deviens purement factuel. C'est-à-dire que, en gros, tu proposes aux gens, indifféremment de est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas, est-ce que ouais. si, est-ce que ça, tu vois, tu leur proposes indifféremment de ça, de se compléter dans le développement de l'entreprise en se développant eux-mêmes, tu vois. Et ça, c'est super important.
Et là, on parle vraiment des hard skills. Comment tu fais par rapport aux soft skills, tu vois, au culture fit, etc., qui est vraiment un truc ultra important aujourd'hui, de bien se sentir dans sa boîte avec ses collaborateurs. Est-ce que le côté « je cherche le golden profile », ça va pas un peu biaiser soit ton recrutement interne ou externe, soit ta montée en compétences, en faisant un peu du mirroring, quoi. Enfin, essayer de faire l'armée des clones.
Bah, si tu prends... Si tu prends, c'est toujours pareil, ça va dépendre comment tu vas gérer en fait ton recrutement et quels sont les skills que tu vas mettre à l'intérieur. Là, justement, l'intérêt, tu vois, de ce type d'outil qui met en avant les compétences, que tu sois sur des hard skills ou sur des soft skills, c'est effectivement que tu ne vas pas avoir les mêmes personnes.
Okay.
Tu as les mêmes personnes quand tu te sers de tes biais, qui sont tes biais neurologiques, en prenant les mêmes personnes qui ont le même aspect physique, la même origine d'études, la même origine d'expérience, toutes ces choses-là. Donc ça, en fait, c'est des choses que tu vas voir sur les CV, c'est des choses que tu vas voir sur des supports en fait qui vont t'amener à amener ce biais en fait de clonage qui va te dire ok, j'avais Karim qui faisait tel job, je veux absolument que Denis qui arrive ait la même expérience, ait les mêmes études ou à minima quelque chose qui soit similaire.
Ouais.
Quand tu te bases que sur des soft skills ou sur des hard skills, t'en as rien à faire de savoir d'où il vient. T'en as rien à faire de savoir s'il a fait ça depuis 10 ans, depuis 2 ans ou quoi, à partir du moment où l'évaluation de son niveau technique est bonne. T'en as rien à faire de savoir s'il s'appelle Jean-Michel, s'il s'appelle Mustapha ou s'il s'appelle Claire ou compagnie. T'en as rien à faire de savoir s'il est handicapé, s'il est jaune, noir, s'il est tout ce que tu veux. Tout ce qui t'intéresse, en fait, c'est ses comptes. Et donc, à partir de ce moment-là, en gros, tu fais fi de cet aspect de clonage et tu te retrouves avec des personnalités qui sont complètement différentes, mais qui ont les compétences qui te servent à développer ta boîte. Ce qui t'intéresse, c'est les compétences qui te servent à développer ta boîte. Et si ces compétences-là, elles ont été acquises à travers des parcours différents, ben c'est ça qui va faire la force de la diversité à l'intérieur de ta structure. Donc non, bien au contraire. Ça empêche complètement le clonage et ça amène beaucoup plus d'éthique dans ton recrutement.
Super. Donc c'est vraiment la solution idéale pour mettre de la diversité dans tes équipes, quoi, finalement. Et puis avec cette notion d'objectif final où tout le monde va aller dans le même sens avec les bonnes compétences au bon endroit.
Exactement.
Et concrètement, comment tu mets ça en place? C'est quoi ce que tu vas aller détecter? Quelles sont les data que tu traites? Parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est ça, c'est data et IA. Quelles sont les données que tu vas récupérer? Comment tu les récupères aussi? Après, comment tu les fais mouliner pour sortir quelque chose de cohérent et avec de la valeur ajoutée?
Ok. Alors avant, je vais répondre à Damien. Ouais. Les outils peuvent aider à gérer les remontées terrain manager collab sur les besoins en compétences. Alors, c'est intéressant parce que nous, on est un outil jeune, donc on est en développement. C'est intéressant parce qu'on ne remonte pas aujourd'hui les besoins terrain par rapport aux compétences. C'est-à-dire que c'est pas notre métier. Notre métier, c'est plutôt de voir quelles sont les compétences en fait qu'on va pouvoir matcher avec les besoins qui sont exprimés. Mais ce qu'il y a d'assez intéressant dans ce que tu dis, Damien, c'est qu'on pourrait nous très 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 rapidement envisager justement un module de partage pour pouvoir voir justement quels sont les besoins terrain sur les managers et sur les collabs, sur les besoins en compétences. Ouais, tout à fait, on pourrait le faire. Là aujourd'hui, c'est un peu plus à la main en fait. C'est pas en tant que tel, tu vois. C'est vrai que ça colle à sa question. C'est pas en tant que tel quelque chose qu'on va maîtriser, enfin qu'on va mettre en avant, mais c'est un peu à la main des managers et des collaborateurs.
Okay.
Donc par rapport à ce que tu disais Alex, on va récupérer toute la data sur trois niveaux différents. On va récupérer déjà premièrement la data des autres outils qui existent déjà dans les entreprises, ouais. Si autres outils il y a. Donc on va récupérer la data des SIRH, on va récupérer la data des ATS, on va récupérer la data des outils de paie, on va récupérer toutes les datas possibles et imaginables sur les collaborateurs. Okay. Ça, c'est la première chose. Donc celle-ci, on la récupère par API, on l'intègre et après, on la traite. On est sur un format DIA qui est un format NLP. Donc ça veut dire que notre travail, en fait, c'est de réussir à analyser, à récupérer la donnée, à la traiter, à la comprendre, à la contextualiser. Okay. Et à la ressortir, en fait. C'est vraiment tout ça, le travail de l'IA qu'on va faire à l'intérieur.
Ça marche. Okay.
Donc ça, on va la recontextualiser par rapport à ce qu'on va récupérer. On va le refaire aussi par rapport à tout ce qui est entretien annuel et entretien professionnel.
Okay.
Donc ça veut dire qu'en gros, tu vas avoir des managers qui vont arriver, qui vont effectuer des entretiens annuels, des RH qui vont effectuer des entretiens... Non, les managers qui vont effectuer des entretiens professionnels, les RH qui vont effectuer des entretiens annuels, ainsi de suite, ou inversement, ça dépend de ta boîte. Et donc, du coup, tu vas récupérer toute cette donnée-là. Et cette donnée-là va aussi contribuer à enrichir le collaborateur et le profil numérique du collaborateur. Non seulement sur ses compétences, mais aussi sur ses appétences, sur ce qu'il ou elle a envie, et donc ouais. Sur ce qu'on peut lui proposer. Tu vois, y a aussi ça qui est important. C'est-à-dire qu'encore une fois, on va lire toute la donnée, on va la contextualiser, on va la comprendre, et on va pouvoir la retranscrire.
Okay.
Et troisièmement, l'autre data qu'on va récupérer, ça va être la data du collaborateur. Et là, on sera beaucoup plus sur de la data déclarative, sur qu'est-ce que j'ai fait comme projet transverse, qu'est-ce que j'ai fait comme expérience extra-professionnelle, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait comme ci ou comme ça. Là, on est toujours pareil, hein, sur le même principe, hein, de d'outils, mais on est plus sur du déclaratif, donc on va plus être sur du factuel pur et dur, que sur de l'analyse réellement de données. Enfin, c'est de l'analyse de données, mais de l'analyse de texte, comme ouais. On pourrait avoir sur le côté entretien annuel et professionnel. Toute cette data, on va la récupérer.
OK.
On va la travailler, on va l'analyser. On a un outil qui est basé sur la donnée. Donc, tout notre travail, c'est d'un côté, on la récupère. Tous nos algos qui sont travaillés par nos data scientists travaillent la donnée, ouais. L'analyse. Et boum, on la retranscrit après sur tableau de bord, que ce soit un tableau de bord pour les RH, un tableau de bord pour les managers, ou aussi, et c'est ça qui est important, parce qu'il ne faut pas laisser ça que à la main du RH ou des managers, mais un tableau de bord pour le collaborateur.
Ouais.
Parce que l'objectif, c'est que le collaborateur soit acteur, en fait, aujourd'hui, de sa mobilité et de ce qu'il veut faire.
C'est ce que j'allais te poser comme question, justement, ce côté vraiment mise à disposition de l'information, parce qu'il y a des données qui sont confidentielles, quand même, mine de rien, sur la data que vous allez traiter. Comment tu fais pour garder le degré de confidentialité assez élevé, tout en réussissant à communiquer avec les équipes directement sur le terrain?
Bah, après, ton degré de confidentialité, c'est toi qui le décides en fonction de ce que tu mets en place dans ta boîte. Hein.
Ouais.
C'est t'as ton RH, ton super administrateur RH qui va avoir toutes les données, collaborateur, ouais. Manager et tout, comme c'est son travail. Après, c'est lui ou elle qui décide. Qu'est-ce que je donne à disposition pour les managers pour qu'ils fassent leur taf en fonction de ta structuration de boîte? C'est-à-dire, est-ce que les managers sont proactifs dans le côté développement des compétences, dans le côté strategic workforce planning ou pas?
Ouais.
Et ainsi de suite. Et après, le collaborateur, lui, de toute façon, il a toutes ces données à disposition. Et c'est les données, en fait, qui lui permettent de voir où est-ce qu'il s'inscrit dans la structure, où est-ce qu'il s'inscrit dans sa cartographie, donc dans son mapping global de métier, c'est-à-dire dans son environnement métier dans la boîte, où est-ce qu'il s'inscrit. Quels sont les jobs potentiels par rapport à toutes les compétences qu'il a développées dans toute sa vie qui peuvent se proposer à lui? Donc là, tu vois, ça lui propose ses différents parcours de carrière et ça lui donne accès également à toutes les offres d'emploi dispo dans la boîte, ouais. À tous les jobs dispo dans la boîte et à toutes les formations à disposition. Comme ça, lui, il a son petit outil propre à lui, en fait, qui lui permet de lui dire, OK, d'un point de vue linéaire, j'en suis là par rapport au golden profile de la boîte. Qu'est-ce que je peux faire pour me former? Parce que quel est mon niveau de maîtrise sur telle compétence?
Okay.
Donc, c'est très bien. J'ai tout un tas de formations à disposition. Donc, je peux les solliciter. Comme ça, je sollicite les RH pour pouvoir faire telle ou telle formation. Donc, il peut être proactif. Ou, j'en ai marre de faire ce job-là. Qu'est-ce qui est possible pour moi de faire par rapport à mon vécu, par rapport à tout ce que j'ai fait, tu vois? Donc, c'est vraiment ces trois niveaux de granularité, que ce soit au niveau de la récupération des données ou de la retranscription des données, qui permet de relier au final ces personnes-là ensemble. Parce que même si elles peuvent le voir chacune sur leur espace, ben, l'objectif, en fait, c'est que tout le monde bosse dans le même sens.
C'est ça. Et du coup, ça crée un vrai cercle vertueux, dans le sens où, en fait, si on part de la base du recrutement du collaborateur, ensuite, tu as la rétention, la fidélisation, le développement des compétences, et tu reprends ce cercle-là, et finalement, tu peux que grossir ton entreprise parce que tu vas baisser ton turnover, mettre les bonnes personnes au bon endroit, et ton recrutement, il sera beaucoup plus efficace parce que tu vas pouvoir vraiment qualifier les profils dont tu as besoin et recruter efficacement. En fait, c'est un outil qui est complètement, on parlait de transverse, mais c'est un outil magique pour les RH. Ça leur permet d'être dans l'anticipation permanente et dans l'action et pas dans la réaction et dans l'urgence, finalement.
Complètement, c'est exactement ça en fait. L'objectif, c'est celui-ci, c'est de pouvoir prédire en fait ce qui va se passer, enfin prédire, c'est de pouvoir être vraiment dans le côté prévisionnel, quoi. Tu vois, c'est vraiment, c'est ça, hein, la gestion prévisionnelle, c'est vraiment ça. Hein, c'est le fait de dire, ok, où est-ce que je vais aller et qu'est-ce que je peux faire. Je dois être proactif tout le temps. Je dois être proactif tout le temps, non seulement pour le développement de ma boîte, oui, mais aussi pour mes collaborateurs, quoi. C'est-à-dire que mes collaborateurs, ils ont besoin que je sois proactif, pardon, pour pouvoir, comment dire, se sentir valorisé, se sentir reconnu, tu vois. Ils ont besoin que je leur propose des choses.
Oui,
et ce qu'il y a de bien, c'est que le RH propose, mais que l'outil de lui-même, en fait, apporte cette reconnaissance et cette valorisation aux collaborateurs. Pourquoi ? Parce qu'il a son espace à lui qui lui permet de se dire, OK, comment je m'intègre dans la boîte ? Ben, j'ai tout ça à disposition. Donc, c'est-à-dire qu'il y a cet aspect qui fait que je me sens dans cette structure bien parce que j'ai à disposition des données qui me permettent de me développer moi-même. Bon, après, nous, on a développé aussi tout un tas d'outils à l'intérieur pour fidéliser les collaborateurs, tu vois. On a développé un outil de mood, on a développé tout un tas de choses qui permettent aussi de se dire, c'est un outil pour moi, mais ça, c'est des côtés annexes qui vont servir au RH, qui vont servir au collab. Mais sur le fond, en fait, l'idée, c'est de se dire, le collaborateur n'est pas seul de son côté, ouais, le RH n'est pas seul de son côté, le manager n'est pas seul entre les deux. Mmh. C'est tous ensemble, en fait, qui ont la main sur le développement du collab pour développer la boîte.
Ouais, ça crée du lien, finalement, entre les collaborateurs et les RH. Et parfois, ce lien-là, il est hyper, hyper... Enfin, il est cassé, ils sont très distants. Et ça remet du lien complètement parce que, finalement, les outils sont les mêmes d'un côté comme de l'autre. Et ça te permet aussi de pouvoir anticiper des moments de friction. Tu arrives à détecter du mal-être collaborateur via les outils de data et d'IA que tu mets en place ou...
Alors, c'est l'objectif. Nous, on est un jeune outil encore aujourd'hui. Donc, je pourrais te dire ça dans quelques mois, savoir si tout fonctionne bien, les KPI et compagnie. Ça serait te mentir aujourd'hui que de te dire 100% ça fonctionne. Et comme on n'est pas des menteurs, on te dit oui, les algos fonctionnent.
Ouais.
Maintenant, après, voilà, je pourrais te sortir ça plus tard. Mais oui, effectivement, l'objectif, c'est le fait d'avoir un outil qui est basé sur la donnée, ça nous permet clairement de pouvoir analyser un nombre de choses fantastiques. Tu vois, on peut aussi bien analyser par rapport à tout ce qu'on voit dans la boîte, analyser des moments de friction, des warnings sur du burn-out, sur du bore-out, sur des pertes d'intérêt, sur du désengagement, des choses comme ça. Tu vois, on peut le déceler. Comme on peut déceler, tu vois, par exemple, le taux de risque de la perte d'une compétence. Pourquoi ? Parce qu'on va récupérer toutes les données des collaborateurs, du turnover sur ce type de profil, ainsi de suite.
Ouais.
Et comme on est basé sur cette donnée, on va pouvoir assimiler le côté compétence à ça et on va pouvoir dire, attention, sur cette compétence-là, par rapport au nombre de personnes qui sont chez toi, par rapport au turnover que tu as sur ce type de poste qui ont cette compétence-là, par rapport au départ à la retraite que tu as des personnes qui ont ce type de compétence qui sont chez toi, tu as un taux de risque de perte de cette compétence qui est de temps. Donc, fais-y hyper gaffe. Et donc, du coup, fais-y hyper gaffe, ça veut dire que soit tu bosses sur la reconnaissance de tes collabs, leur valorisation parce que tu veux vraiment les garder, soit tu bosses sur le développement de ce type de compétences en interne parce que tu sais que tu as des personnes que tu peux former, tu vois, à développer ce type de compétences, soit tu l'as dans l'os et là commence à prévoir tes recrutements, mon coco, parce que sinon ça va être compliqué dans quelques mois, quoi.
Et justement, pour prévoir tes recrutements, tu utilises la data uniquement interne ou bien tu es capable aussi de faire des études de rémunération, par exemple, pour dire en fait sur ce poste-là, si tu dois aller chercher quelqu'un qui a X années de compétences, etc., il faut te baser sur tel ou tel barème.
On pourrait le faire avec la donnée qu'on récupère. C'est pas du tout un souci sur ce sujet-là. Tu sais, aujourd'hui, c'est relativement, mais il y a des personnes, en fonction des sujets, il y a des boîtes qui font très bien ce type de job.
Ouais.
Et c'est pas à nous de le faire.
Okay.
Tu vois, genre, Figure fait très bien ce type de job sur le côté rémunération. C'est pas à nous de le faire. Demain, t'as une boîte qui bosse avec Figure. On s'arrange avec eux pour pouvoir récupérer la donnée et la mettre à l'intérieur de l'outil. Comme ça, eux, ils ont cet outil-là qui fonctionne extrêmement bien. Et nous, on se sert de cette data-là pour pouvoir analyser justement certaines données à l'intérieur qui peuvent ressortir par rapport à OK. Ça a du sens. Mais allez nous faire ce sujet-là par rapport à de l'analyse de données qui est très bien faite à outre mesure, je vois pas vraiment l'intérêt.
Ok, très clair. Et tu vois, on parle beaucoup aujourd'hui de l'IA générative. Alors, tout le monde parle de ChatGPT et comparse et autres. Vous faites de l'IA prédictive, on est d'accord, c'est pas du tout la même chose. Comment tu peux expliquer ça peut-être aux gens qui savent pas très bien ce que c'est? C'est quoi la valeur ajoutée de l'IA prédictive? Et est-ce que c'est un outil vous l'avez développé vraiment en propre ou vous utilisez aussi des outils annexes externes?
Alors, on fait pas vraiment, c'est pas nous qui faisons de l'IA prédictive. On peut faire de l'IA prédictive,
d'accord?
On peut faire de l'IA prédictive qui va comprendre, en fait, quels sont les besoins en compétences par rapport à l'évolution de tes jobs et par rapport à ce qu'on voit de l'évolution du marché de l'emploi. Mais dans tous les cas, la prédiction, pour moi, en fait, ça doit pas être faite uniquement par l'IA. parce que si elle est faite uniquement par l'IA, en fait, tu vas avoir une vue qui va être biaisée.
Ouais.
Parce que tu vas avoir une vue qui ne correspondra pas à ton entreprise. Donc, nous, on doit te proposer, en fait, des choses par rapport aux métriques qu'on a et aux analyses de données qu'on a. On va pouvoir te proposer, en fait, ce qui serait intéressant demain. De la même manière que c'est exactement pareil que quand on fait un référentiel métier. C'est toujours la même chose. Tu fais un référentiel métier, tu fais le référentiel métier idéal par rapport au job, parce que par tout ce que tu as vu, tu vas faire ton golden profile. Yes. Là, c'est pareil sur le prédictif. Tu vois, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que tu dois obligatoirement intégrer les CEO et les RH dans la boucle. Pourquoi? Parce qu'entre ce que l'IA va te ressortir et ce que ta boîte veut, il y aura toujours une différence. C'est impossible, en fait, que l'IA fasse exactement ce que ta boîte veut. Et ça, dans tous les domaines. D'accord? Faut bien ne jamais oublier pour qui que ce soit que l'IA n'est qu'un outil. D'accord? Ça n'est qu'un outil au service des entreprises et au service des RH. D'accord? C'est vraiment juste un outil. Donc, cet outil-là, il faut l'utiliser au maximum pour après, toi, rajouter ta valeur ajoutée. D'accord? Ça va être ça. Après, la vraie différence, c'est que nous, on va recontextualiser en fait l'ensemble, on va comprendre, donc on a créé des algos qui font en sorte de vraiment de pouvoir tout reproduire par rapport à l'expérience qu'on a de telle ou telle compétence, de tel ou tel mot, de telle ou telle expérience. Donc, ça va être vraiment une recontextualisation globale qui va être complètement différente des IA génératives qu'on peut trouver, type ChatGPT ou autre, hein, clairement. Donc, voilà. Donc, après, oui, c'est nous qui l'avons créé. Mais toujours pareil, après je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais c'est nous qui l'avons créé. Toujours pareil avec des blocs, hein, c'est la même chose aujourd'hui, tu crées pas from scratch une IA, ça n'existe pas, quoi. Donc,
sur la partie, justement, je rebondis sur la question de Damien un petit peu tout à l'heure. On sait qu'il y a quand même un gros point noir en France et dans d'autres pays, mais en France notamment, sur la qualité des managers qui posent parfois des problèmes en interne. Est-ce que, justement, le travail que vous pouvez apporter avec Hawk permettrait de détecter des compétences qui soient clés et pas simplement pousser des gens en fonction de leurs chiffres ou alors d'une position un peu politique en interne?
C'est exactement le principe. C'est ce que je te disais tout à l'heure quand on parlait d'éthique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu proposes quelqu'un, quand tu as une mobilité interne ou quand tu as un développement, c'est souvent dû au manager. Sauf qu'aujourd'hui, ce que l'IA te permet de faire, c'est justement de te dire « Ok, je fais fi de tous ces aspects-là, je m'en fous, quoi. Tout ce qui m'intéresse, c'est la complétion du profil avec l'offre, tu vois, avec le poste. Ou la complétion du profil à date avec le profil que je veux dans 5 ans dans mon strategic workforce planning. » Donc du coup, le manager intervient dans un second temps.
Ouais.
Or, aujourd'hui, le manager intervient dans un premier temps. Et c'est ça, en fait, toute la différence et tout l'intérêt de ce type d'outil. C'est-à-dire que le RH, en fait, va avoir, ou le chef d'entreprise, la chef d'entreprise, va avoir à disposition les meilleurs profils pour pouvoir justement venir là. Alors, après, en plus, tu vois, nous, on a développé un outil qui est tripartite, c'est-à-dire que tu prends une offre ou un job en question, tu prends le profil, tu vois la complétion, et en plus, au milieu, on va mettre les formations associées pour pouvoir dire, OK, tel profil aujourd'hui, il est intéressant parce qu'il est à 75% complétion avec ce job-là. Il y a tel profil qui est bien aussi, qui est à 80%, mais sache que celui à 75%, si jamais il fait telle formation, il passe à 85%. Parce que du coup, telle formation, ça va lui rajouter telle ou telle compétence, donc ça va passer. Donc, ça te permet en fait d'avoir, en gros, tous ces items, tous ces métriques qui sont là pour pouvoir, toi, te dire, OK, voilà mon champ des possibles. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Et en tant que RH, une fois que tu as ton champ des possibles, là, une fois que tu as ça, là, tu fais intervenir les managers, là, tu fais intervenir ta valeur ajoutée en disant, OK, maintenant que je sais quels sont les meilleurs profils pour pouvoir faire ça, là, j'intègre ma culture d'entreprise. Là, j'intègre le côté équipe. Est-ce que telle personne va aller avec telle équipe ou avec telle équipe? Là, j'intègre le côté manager. Est-ce qu'il va avec un tel? Là, j'intègre tout le côté humain, en fait, qui va derrière. Mais nous, on est sur le côté purement factuel, encore une fois. Et c'est ça qui est hyper intéressant et qui casse ce côté éthique et ce côté, on va dire, un petit peu non inclusif que peuvent avoir certaines boîtes.
Je creuse un peu sur ce volet-là. On va répondre aux questions de Damien après. Parce que pour ceux qui écoutent en podcast, du coup, on est en live LinkedIn et on a aussi des questions qui sont posées par ceux qui écoutent en live.
Je réponds à la question de Damien, juste ce qu'il dit là sur HRBP. Vas-y. Pour 200 personnes, ça ne peut pas faire de la GEDP correctement. On est complètement d'accord. C'est pour ça, en fait, que ce type d'outil est nécessaire. C'est vraiment exactement pour ça, parce que en gros, et c'est tout le problème dont on parlait tout au début, tu vois, Damien, c'est que les chefs d'entreprise ne conçoivent pas ce genre de choses. Ils commencent à le concevoir aujourd'hui, tu vois. Commencent à concevoir qu'il y a besoin de ressources humaines. Commencent à concevoir qu'il y a besoin d'outils. Commencent à concevoir que le fait de travailler la GEDP, ça devient intéressant. parce que ça limite le turnover, il y a plus de productivité. Il y a une étude, parlons RH, un baromètre d'un des dernières qui était sorti, ouais, qui disait que les boîtes avec les collaborateurs les plus engagés retenaient en moyenne entre 2,5 et 3 fois plus leurs clients. Donc là, on parle même pas en fait de leurs collaborateurs, on parle des clients, tu vois. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a que 6% des collaborateurs qui se disent engagés en France.
Okay.
Donc ça veut dire qu'en gros, tout cet aspect-là est à développer. Donc si les chefs d'entreprise ne comprennent pas, on ne pourra pas avancer. Et comme les chefs d'entreprise commencent à le comprendre, ça commence à venir. Et du coup, il faut les équiper. Mm-hmm. Donc là, je suis complètement d'accord avec toi. HRBP pour 200 personnes ne peut pas faire de la GE2P correctement.
Compliqué.
Ce type d'outil lui permet justement de pouvoir analyser ce type de données et de pouvoir, a fortiori, faire ce pourquoi il a de la valeur ajoutée, mm-hmm, c'est-à-dire son job. Donc, c'est clairement ça. Il faut être équipé. Si t'es pas équipé, c'est impossible. Nous, on voit des boîtes qui ont des tableaux Excel et tout. C'est impossible. C'est ingérable. Combien de boîtes, tu vois, qui disent, ah, c'est super, j'ai un SIRH, j'ai plein de données à l'intérieur, mais je sais pas la traiter, tu vois. Qu'est-ce que j'en fais? Donc, tu vois, c'est ça. C'est là où ce type d'outil est intéressant. C'est parce qu'on va récupérer la donnée, on va la traiter, on va l'analyser. Et là, pour le coup, on va pouvoir te la retranscrire.
OK. Très clair. Et HRBP, ça veut dire Human Resource Business Partner. C'est un poste qui est assez nouveau finalement, et on voit justement ce côté où les CEO, les chefs d'entreprise prennent conscience du volet business des RH qui est assez récent, rien que dans le nom, qui n'existait pas il y a encore une dizaine d'années. C'est très parlant. Et je voulais te parler aussi de la transmission des compétences grâce à l'outil. Aujourd'hui, alors je parle de ça parce que je parlais il y a pas très longtemps avec un ami qui est directeur d'industrie, et finalement, et en fait, il se rendait compte, il a récupéré une industrie qui était un peu vieillissante finalement, mais pas avec des compétences clés qui étaient en train de disparaître. Et il a eu vachement de mal à emmener les seniors, en quelque sorte, qui avaient cette compétence-là, et à les faire transmettre ces compétences. Mais sans ça, en fait, la boîte, elle disparaît. Et ton outil, finalement, que ça permet cette transmission de compétences, et puis de détecter les gens qui sont capables et qui ont envie de les transmettre, si je comprends bien.
Juste avant, je fais juste la parenthèse, on n'est pas en train de vendre Oak, hein. On parle du sujet. Oak est un outil. Il faut savoir que il y en a d'autres en France. Il y a la vraie grosse différence que Oak a, c'est que nous, on se base sur des profils d'entreprise, mm-hmm, qui vont entre 50, 200 personnes jusqu'à 4, 5, 6, 10 000 personnes, tout ce qu'on veut. Alors que les outils qui existent aujourd'hui sont basés sur les très grosses structures et les grands groupes. Yes. Donc, ça va être vraiment notre forte différence. Mais on se sert de l'outil pour pouvoir justement répondre à toutes ces questions dont on parle aujourd'hui.
Être capable d'accompagner des PME finalement aussi bien que des grands groupes.
Ouais, complètement. Après, nous, les grands groupes, ça sera pas notre objectif. Yes. Hein, c'est pas notre but. Parce que notre but, c'est de révolutionner le monde des RH. Et justement, tout ce dont Damien parle, tu vois, avec le problème HRBP qui est seul pour une boîte, yes, de 200 personnes à tout. Nous, on veut les aider, ces gens-là, tu vois. On veut aider ces boîtes-là parce qu'on sait qu'elles ont envie d'avancer et on veut faire en sorte qu'elles avancent. On veut faire en sorte d'améliorer le quotidien d'un nombre de personnes incalculables. Des RH, certes, mais aussi des collaborateurs. Parce que si tu réussis à mettre ça en place, bah forcément, tu fais en sorte que les sociétés se développent beaucoup mieux. Donc, c'est pour ça qu'on s'attache aux petites, aux moyennes entreprises, on va dire.
Et puis, c'est le cœur économique du pays, hein, finalement.
Complètement. Ouais. C'est exactement ça. Et puis, pour moi, les très grosses tôles, certes, elles ont besoin d'outils, mais elles ont déjà des armées mexicaines de RH, donc c'est pas elles qui ont vraiment le plus besoin qu'on les accompagne.
On est bien d'accord.
Ça, encore une fois, c'est un autre débat. Mais pour revenir à ta question, oui, complètement, parce qu'en plus, ce qu'on fait, c'est qu'on propose non seulement aux collaborateurs de se dire, OK, quelles compétences tu vas vouloir développer, comment tu vas vouloir t'avancer et tout. Donc, voilà ce que tu peux faire. Et en plus, on lui met à disposition, en fait, toutes les personnes qui sont ouvertes au tutorat et au mentorat pour pouvoir dire, OK, bah, t'as telle personne sur telle compétence qui peut t'accompagner. Donc, on va créer justement ces liens, on va casser ces silos, on va créer ces liens entre les personnes.
Ouais.
Mais je reviens toujours à ce que je te disais au départ. C'est-à-dire que l'outil est très bien parce qu'il le propose. Mais si ça n'est pas dans ta culture, dans ton ADN, c'est mort, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que tu n'auras pas de personne qui voudra faire du tutorat, tu n'auras pas de personne qui voudra faire du mentorat. L'intérêt d'un outil comme ça, c'est que ça permet en fait de mettre en place ta culture. Pourquoi ? Parce que ça laisse le champ libre aux personnes. C'est pas quelque chose qui est imposé, tu vois, par les RH qui vont dire, OK, bah tiens, j'ai telle compétence en souffrance, j'ai telle personne qui peut arriver, je vais faire matcher les uns avec les autres. Non. Là, tu interviens dans une culture un petit peu de co-développement. C'est-à-dire que tu dis, OK, moi, je suis pour le mentorat, moi, je suis pour le tutorat, je suis pour transférer mes compétences, quel que soit mon âge, hein, que je sois jeune ou vieux, je suis pour transférer mes compétences. Très bien, je le mets à disposition. Les personnes qui ont envie de se développer, elles peuvent venir me voir et me solliciter justement pour faire ce système de tutorat et de mentorat. Donc, tu es sur un truc qui est beaucoup plus collaboratif.
Ouais, c'est cette notion d'engagement, en fait, finalement.
C'est ça. C'est ça que l'outil va amener. Mais ça ne révolutionnera pas ton ADN et ça ne révolutionnera pas ta culture, clairement.
Ouais, ça, on est tout à fait d'accord avec ça. Et c'est cette notion d'engagement et ça fait partie de la rétention, finalement, parce que, bah, c'est ça. Et puis, ça crée des liens très forts. Ça fait de la synergie. Ça fait qu'on a cet esprit d'équipe, parfois de famille, qui se met en place. Et la transmission, je pense qu'aujourd'hui, elle est ultra importante parce qu'on est en train de perdre énormément de compétences aujourd'hui et des compétences clés. Je pense aussi aux artisans, tu vois, des charpentiers, des plombiers, etc. Aujourd'hui, il y a un vrai défaut par rapport à ça. Il y a pas mal de petits chefs d'entreprise qui ont du mal à faire ce plan de développement des compétences. Est-ce que, du coup, les outils d'IA et de data font que même quelqu'un qui n'a pas de compétences RH au final, en mettant en place des outils comme ceux-là, il pourra quand même mettre cette petite part en plus qui va l'aider dans son business.
Bien sûr, parce que bien évidemment, tu vois, l'outil te montre en fait où est-ce que tu peux aller. Donc, tu as juste à rentrer une fiche de poste dans l'outil de ce qui te semble intéressant, de ce qui te semble aller, que ça soit le golden profile à date ou que ça soit une fiche de poste a posteriori. Hein. Mm-hmm. Et du coup, ça te montre tout le chemin à parcourir pour les collaborateurs pour pouvoir justement aller s'améliorer et aller vers ce golden profile ou vers cet autre profil. Donc ça va te le faire automatiquement, ça va te le faire automatiquement. Mais il n'empêche que ça t'aide, mais il faut toujours conserver à l'idée que ça n'est qu'un outil et que le RH doit avoir sa valeur ajoutée. La valeur ajoutée du RH, elle va au-delà du fait de simplement proposer un parcours de développement de compétences. C'est l'accompagnement dans ce parcours de développement de compétences qui va faire la force du RH. Le parcours de développement de compétences, on peut l'avoir relativement simplement, tu vois, ça se fait. Tu réfléchis un peu, t'es pas trop bête, tu vas pouvoir le faire. La LIAC le fait directement, c'est encore plus simple, c'est beaucoup plus pertinent, donc tant mieux, tu vois. Mais c'est pas ça qui va faire la force de ton développement. C'est le fait que le RH comprenne qu'est-ce que tu peux faire, t'accompagne, voit comment ça fonctionne, c'est ça, en fait, qui va faire la force du truc. C'est-à-dire qu'en gros, ce sont des outils qui permettent de simplifier énormément la tâche technique du RH et donc, du coup, de pouvoir lui permettre de faire la tâche la plus dure qui est de gérer l'humain, mais qui est son job de base. Qui est son job de base. Et ça lui permet, en fait, de revenir à l'essentiel de son travail, c'est-à-dire ça, c'est gérer l'humain.
C'est l'opérationnel. Et du coup, tous les RH qu'on peut entendre se plaindre, j'en ai marre d'être sur des tableaux Excel à longueur de journée, à remonter des données, etc. Et puis, finalement, que ce soit pas toujours à jour. Ah, je pense qu'on a perdu Nico en route. Bon, c'est un petit, peut-être un. Il a dû appuyer sur la croix en haut à droite. Bon, c'est pas très grave. Donc, l'idée, en fait, de les ramener de la data et de l'IA dans les RH, c'est quoi, au final? Pour les recruteurs, pour les RH au quotidien, ça va permettre de gagner énormément de temps sur les tâches qui sont redondantes, de pouvoir automatiser tout ça et avoir des données qui sont cohérentes, et qui sont finalement factuelles. Donc, le RH, au final, il va se concentrer sur son job de base, de fond, ce qui va être la proximité du terrain, le côté opérationnel, l'humain, et d'avoir un plan qui soit établi, qui soit de long terme, de moyen terme, qui soit cohérent avec le business. Je pense que c'est vraiment important d'avoir cette idée en tête là. Ça permet aussi de finalement de pas recruter des mauvaises personnes au mauvais endroit et surtout de recruter au bon moment. Le recrutement, c'est pas une fin en soi. Il y a plein d'étapes à respecter avant. Les ressources humaines aujourd'hui, elles sont moteurs, elles sont ultra importantes dans le quotidien des entreprises. Et les outils, la data, l'IA, ça permet réellement de pouvoir faire de l'anticipation et pas mettre les assets au mauvais endroit. Est-ce que Nico, j'ai bien résumé le... Je ne sais pas si tu entendais, j'ai essayé de...
Ben, je ne sais pas, parce que les joies du live, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai été déconnecté, je n'arrivais pas à me reconnecter. Donc, je suis vraiment navré.
Il n'y a pas de souci.
Donc, du coup, je n'ai pas entendu la dernière minute, je pense, ou la dernière minute 30.
Ce que j'expliquais un peu en résumé, c'est que effectivement, mettre en place de la data, des outils de gestion de data avec de l'IA ou dans le quotidien des RH, que ce soit des recruteurs ou des RH, ça permet de mettre les assets au bon endroit. De mettre de la cohérence, d'avoir des objets, des datas concrètes qui sont basées sur du réel et de pouvoir vraiment être proche du terrain, de se concentrer là-dessus et de se concentrer du coup sur les tâches qui sont vraiment à valeur ajoutée et de pas voir le recrutement comme une finalité mais bien comme un point d'entrée du collaborateur qui va faire toute sa carrière, bon, en espérant en interne, de pouvoir anticiper au maximum les choses et de rentabiliser finalement la fonction RH et de pouvoir rendre ses lettres de noblesse à cette fonction-là parce que on va s'éclater en le faisant. Parce que si on met de côté tout le volet un peu chiant, hein, on m'excusera du terme, mais de récupération, d'agrégation de la donnée, etc. Si tout ça, c'est un outil qu'il fait tout seul et qu'on doit après appliquer, évidemment en validant, hein, parce qu'il faut toujours revérifier, mais ça va permettre de remettre un petit peu de bonheur au travail, de sens dans le quotidien des RH et des recruteurs et de faire les choses dans le bon ordre, dans le bon sens et d'éviter de mettre son énergie sur des tâches finalement redondantes et à faible valeur ajoutée. Est-ce que j'ai bien résumé?
J'ai rien à dire.
Okay.
C'est parfait. T'as fait la super conclusion, donc c'est parfait, c'est exactement ça. Non, j'ai rien à dire. Hein. Ça paraît très bizarre, mais parce qu'en gros, on est sur un gros mot qui est l'IA, qui fait peur à tout le monde parce que ça arrivait d'un coup, tu vois. Moi, je me souviens, on avait fait il y a un peu plus d'un an avec Nico Galita de l'école du recrutement et Deslus, on avait fait un live sur l'IA et sur GPT. Mm-hmm. On avait explosé les compteurs du live parce que tout le monde se posait des questions.
Méga trend.
J'ai fait une non-conférence du recrutement il y a 3 semaines à Bordeaux. On posait la question, donc un an plus tard, on posait la question et pratiquement tous les RH avaient déjà utilisé l'IA.
Ouais.
Donc déjà, tu vois, c'est plutôt une bonne chose. Donc ça commence à venir. Maintenant, il reste quand même une grosse défiance parce qu'aujourd'hui, ils savent l'utiliser uniquement sur la partie générative, tu vois, sur la partie GPT. Donc il reste une grosse défiance. Mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, même s'il y aura des déviances de l'IA, mm-hmm. on l'a déjà vu dans les RH, on a déjà vu Amazon qui avait fait des conneries,
ouais.
On a déjà vu des boîtes qui essayent de faire des entretiens vidéo gérés par l'IA.
C'est une catastrophe.
Parce que ça amplifie énormément les biais de base et tout, donc c'est absolument catastrophique. Mais au milieu de tout ça, alors ça s'améliorera peut-être, hein, mais au milieu de tout ça, quand tu prends des IA factuelles comme les nôtres,
ouais.
L'objectif, c'est de remettre l'humain au centre. Ça peut paraître bête, mais c'est la vérité. L'objectif, c'est de remettre l'humain au centre parce que c'est exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire que ça permet au RH de se concentrer sur son travail de RH, de gestion de l'humain. C'est vraiment ce que ça lui permet. Ça lui permet d'éviter de perdre du temps sur tout un tas de tâches et surtout d'avoir connaissance des bonnes, des bonnes données qu'il ne pourrait pas avoir. Enfin, c'est impossible. Quand tu as un RH qui gère 200, 300 personnes ou qui en gère 2000 ou 3000, il peut pas avoir connaissance de ces données. C'est impossible. Il peut pas avoir une connaissance exhaustive. L'IA lui permet cette connaissance exhaustive et lui permet de mettre en avant, en fait, ces données-là qui permettent de mettre en avant ces profils. Donc, de vraiment gérer au mieux, d'orchestrer au mieux, en fait, l'humain dans sa boîte.
Ben c'est ça. Et au final, il y avait un débat il y a encore quelques mois où on disait, mais on va se faire piquer notre boulot par l'IA. En fait, c'est tout l'inverse. Ça va nous permettre de refaire notre travail entre que RH ou recruteur. Il faut avoir ça en tête. Nico Galita le dit régulièrement sur ses formations. L'IA générative, c'est un assistant du quotidien qui permet de gagner du temps.
C'est ça.
Et ça transforme le boulot parce que on refait ce pour quoi on a signé à la base, en fait. L'amour du boulot, c'est l'opérationnel, c'est pas les tâches derrière, de back office. Mm. Et ben, tant mieux, en fait, qu'on ait ces outils-là. Faut pas en avoir peur, faut s'en servir et apprendre à s'en servir.
On est bien d'accord.
Ok. Bah, c'était peut-être le mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? C'est le mot de la fin?
Non, ça va, c'était cool. J'ai beaucoup parlé encore comme d'hab, hein, je suis désolé.
Ah, c'est t'es un bavard.
Ben, j'aime le sujet, tu vois, je suis fan de l'humain, mais vraiment profondément fan de l'humain, et je trouve que c'est des outils qui sont formidables pour vraiment remettre ça au centre. Pour moi, voilà, c'est la base, quoi. C'est les femmes et les hommes qui sont dans les boîtes, qui font les boîtes.
C'est ça.
Donc, si on s'en occupe pas, ça marchera pas. Et pour moi, améliorer les sociétés, ça peut paraître encore une fois un grand mot, mais améliorer la vie des sociétés, c'est améliorer la société au global. Donc, je reste persuadé, en fait, qu'on travaille, en fait, pour une amélioration quotidienne. Donc, c'est ça qui est assez kiffant, quoi.
Bah, écoute, nous, notre baseline, c'est les devs heureux au travail. Donc, on te rejoint complètement parce que quand on est heureux au travail, on est heureux dans la vie, en règle générale.
Ouais, c'est ça.
Et ben merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. Un grand, grand merci à Nico pour sa passion. En plus, c'était passionnant, du coup, fatalement. J'ai plus qu'à vous souhaiter bon appétit. Et Nico, à très bientôt.
À bientôt. Merci beaucoup, Alex. Merci tout le monde. Bonne journée.
Salut.